Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou où le client est au centre de tout. Profitez de la Sounou Attitude. Bonne année.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Si l'on parle dans la vie de tous les jours de la fatigue au singulier, ses origines peuvent en revanche être multiples. Impression d'épuisement, sentiment de lassitude qui peut trouver sa source en premier lieu lorsque le sommeil est de mauvaise qualité. Mais cette fatigue peut être associée à d'autres facteurs. Les conditions de travail, surmenage, stress, démotivation ou encore à une alimentation déséquilibrée qui provoque des carences. Quand elle s'installe, l'asthénie peut aussi nécessiter de consulter. Il reviendra au médecin d'en rechercher les causes pour savoir si elle est associée à une maladie infectieuse, à des troubles psychiques, à une infection chronique, auto-immune ou à des changements hormonaux. Dans ces cas-là, la fatigue devient symptôme et c'est d'ailleurs l'un des motifs les plus fréquents de consultation médicale. D'où l'importance de déterminer ce qu'il y a derrière cette plainte de fatigue. Ne pas rester avec ce sentiment d'abattement qui peut se transformer en mal-être. Rechercher l'origine de la fatigue, eh bien ça s'apparente un petit peu à une enquête qui commence par le sommeil bien sûr, mais aussi à des changements d'habitude, de rythme, de cadre. Lutter contre la fatigue et en rechercher les causes, s'écouter et prendre soin de soi. Comment réagir lorsque on se sent à plat, y compris après une bonne nuit de sommeil et que cela dure longtemps? Fatigue physique, fatigue psychique, fatigue même sociale, bref, fatigue multiforme. On en parle avec vous, professeur Claire Lejeune, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en médecine interne à l'hôpital Cochin à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne de Dakar le professeur Abdoulaye Ley, médecin interniste, endocrinologue, chef du service de médecine interne et d'endocrinologie diabétologie au Centre hospitalier national universitaire de Pékin. Professeur Ley qui enseigne aussi à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis en fin d'émission, notre rendez-vous avec la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport à Paris, auteur du livre « Le sport, je me lance » aux éditions In Press.
Priorité santé sur RFI.
Évidemment, dans cette émission, on va distinguer la fatigue, je commence déjà à être fatiguée, la fatigue normale, fatigue saine de la fatigue chronique, professeur Claire Lejeune, parce qu'évidemment, certaines fatigues, quand on bâille en fin de soirée, c'est tout à fait normal, il faut le dire.
C'est tout à fait normal. La fatigue est finalement souvent le témoignage d'un manque de sommeil ou d'un sommeil de mauvaise qualité. Et effectivement, comme vous le disiez en introduction, chaque fois que quelqu'un ressent un sentiment de fatigue, il faut déjà qu'il s'interroge sur ce qui s'est passé dans les semaines précédentes. Est-ce qu'il est en dette de sommeil? Est-ce qu'il a été en surmenage professionnel ou personnel, déménagement, que sais-je, tout autre? Et toutes ces informations sont extrêmement importantes pour déjà essayer de comprendre la fatigue.
Et au bout de combien de temps, quand on ressent cette lassitude un petit peu anormale, il est bon d'aller consulter pour dire, on va gratter, chercher un petit peu, qu'est-ce qu'il y a, professeur Lejeune, derrière cette fatigue?
Alors, je dirais qu'en moyenne, les gens viennent consulter au bout de 2 semaines, sauf si la fatigue devient vraiment un épuisement total et que les gens n'arrivent pas à se lever, que c'est vraiment très important. Mais sinon, on va dire que 2 semaines me paraît un bon chiffre.
Face à un patient fatigué, c'est quoi les recherches classiques sur le plan biologique? Parce que bien sûr, il va y avoir une consultation, on va examiner le patient, lui poser des questions, observer s'il y a des changements d'ordre physique, etc. Mais ensuite, on passe à une prescription, ça se passe par le laboratoire d'analyse?
Ça se passe par le laboratoire d'analyse. Et il faut reconnaître, bon, il n'y a pas un bilan standard fatigue, mais malgré tout, il y a des pistes. Et on tient quand même aussi beaucoup compte de l'âge du patient, de ses comorbidités. Et il est certain que une personne âgée qui n'a jamais été fatiguée de sa vie et qui vient consulter, on sera très attentif à aller chercher relativement loin une cause de la fatigue. Plus souvent, chez les patients plus jeunes, la fatigue peut être vraiment liée à un déséquilibre de vie. Mais en tout cas, l'examen clé, qui est d'ailleurs l'examen le plus prescrit en médecine générale, c'est la numération formule sanguine, qui nous permet déjà de savoir si on a suffisamment de globules rouges, si on a trop de globules blancs, enfin, c'est déjà pour nous une véritable piste.
Alors, quelque chose d'important à indiquer d'emblée, professeur Claire Lejeune, c'est que s'il y a vraiment une prise en charge importante pour cette fatigue, en revanche, la pilule miracle anti-fatigue, ça n'existe pas, ça n'a pas encore été inventé, peut-être tant mieux.
Alors, effectivement, dans les médicaments qui sont tentés d'être donnés pour la fatigue, contrairement aux antalgiques qui existent réellement.
Contre la douleur,
on n'a pas l'antifatigue. Des médicaments. Mais contre la fatigue, on n'a pas réellement de médicaments. Alors en fait, on a deux registres de médicaments, soit des compléments avec du magnésium, du zinc, de la vitamine C, enfin toute une sorte de panoplie comme ça, ou alors des médicaments stimulants comme la caféine. Et puis, ça peut aller plus loin, mais...
Est-ce que les patients vous le demandent, d'ailleurs ? Est-ce que des fois, certains patients arrivent en disant « je suis à plat, donnez-moi quelque chose parce que je veux aller mieux ».
Oui, oui, les patients le demandent. Et en fait, bon, quand on explique de quoi il s'agit, régulièrement, finalement, ils font marche arrière, sachant que la majorité des gens ont déjà essayé des compléments alimentaires spontanément.
Alors, la plainte de fatigue, on a un message de Aman, il est à Léré, au Tchad. Il est enseignant, il explique que le soir, après les cours, il est très fatigué. Pour lui, le problème, c'est que, y compris le dimanche, quand il n'a pas travaillé, il ressent encore cette fatigue. Il voudrait des explications, professeur Claire Lejeune, pour savoir si, oui ou non, il est malade. Un petit dimanche après, une semaine entière après, avec les élèves, on peut peut-être comprendre un petit peu le sentiment de fatigue.
Oui, mais enfin, alors, bon, on n'a pas son âge, mais s'il est enseignant depuis longtemps et que finalement, il n'a jamais été fatigué jusque-là, pour moi, c'est vraiment...
C'est le changement qui va être déterminant.
C'est ça. C'est finalement, alors qu'il travaillait toujours dans les mêmes conditions, brutalement apparaît une fatigue qui n'était pas là jusque-là. Alors, si c'est la naissance d'un nouveau-né qui pleure toute la nuit, enfin, il y a des choses qui peuvent être de ce type. Mais si dans l'environnement, rien n'a changé, il faut... aller essayer de trouver une cause.
Et puis, il y a, on disait tout à l'heure, l'exploration biologique en quelque sorte. Également, professeur Claire Lejeune, tout ce qui va être en termes d'hygiène de vie, de rythme, parce que ça aussi, c'est très important dans la prise en charge. Vous disiez tout à l'heure, chez les jeunes, des fois, on est complètement désorganisé, on se couche à 3 heures, on fait la fête. Ça fait partie de la jeunesse, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais il faut avoir conscience que le rythme, c'est quelque chose d'essentiel.
C'est très important. Alors, les jeunes... Vous avez parlé de faire la fête et tout. Ce qui est aussi aujourd'hui le fléau, c'est la vidéo jusqu'à je ne sais les jeux vidéo jusqu'à je ne sais quelle heure de la nuit. Ce qui fait que le temps de sommeil est extrêmement raccourci. Et comme souvent ils jouent dans leur chambre,
on n'a pas l'œil dessus.
Donc ça, c'est un motif pour les jeunes très très fréquent.
Et aussi, ça veut dire qu'un certain nombre de patients, si vous avez leur dire non, je n'ai pas la pilule miracle, en revanche, il y a des vrais conseils à donner sur ce qu'il faut changer. Tout simplement, ça ne coûte rien dans le quotidien. C'est peut-être parfois compliqué à accepter. Mais en tout cas, il y a des choses simples à faire. C'est un petit peu toujours les mêmes piliers de la prévention en santé.
On est d'accord. Alors, parmi les conseils, en tout cas, c'est éviter les excitants le soir avant de se coucher. Notamment le café, le thé, l'alcool, qui sont vraiment parmi les recommandations à éviter. Et puis manger léger, parce que finalement, manger trop lourd le soir, c'est une mauvaise digestion. Ça peut être source de reflux, ça peut être source de tas d'autres problèmes. Donc oui, il y a des... Et puis, avoir une activité physique suffisante.
Alors, on va avoir tout de suite un premier témoignage. C'est en région parisienne, à Champigny-sur-Marne, que nous retrouvons Hidaya. Hidaya, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Hidaya, vous êtes âgée de 37 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances, à quel moment vous ressentez cette grande fatigue ?
D'accord. Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Bonjour.
La fatigue, parfois elle peut me venir le matin, où je peux me lever en bonne forme, mais au cours de la journée, que je commence à me sentir très 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 fatiguée. C'est-à-dire que ça peut venir le matin ou au cours de la journée.
Vous avez fait des analyses pour voir si vous aviez une carence, un problème physique. Qu'est-ce que ça a donné ?
Je suis anémie. Je n'ai jamais fait des analyses sur la fatigue, mais je sais que je suis anémie.
Et ça, vous êtes anémie depuis quand ? Est-ce que cette anémie, puisque vous en avez conscience, hein, on l'entend, est-ce qu'elle a été traitée, prise en charge, cette anémie ?
Oui, elle a été traitée, mais... Ça n'a pas guéri.
Mais ça n'a pas guéri, mais vous êtes encore suivie pour ça ?
Oui, je suis toujours suivie, je prends toujours des fers.
Vous prenez des fers et au niveau de vos analyses, ça ne s'est pas amélioré, l'anémie?
Non, parce que tous les ans, je prends des médicaments à cause de ça.
Vous dites tous les ans, ça veut dire que vous en prenez et puis à un moment donné, vous arrêtez?
Oui, on m'inscrit 3 mois. Et je fais un an, parfois l'année ne se termine pas.
Alors justement, je vous coupe Hidaya, excusez-moi. Pendant la période où vous avez pris par exemple 3 mois en continu des compléments pour améliorer le fer dans votre organisme, au bout de ces 3 mois, est-ce que vous vous sentez mieux quand vous arrêtez le traitement?
Oui, je me sens mieux.
Et vous arrêtez quand ça va mieux?
Oui. Quand ça va mieux, j'arrête.
Vous arrêtez. Alors, professeur Claire Lejeune, qui a votre écoute, vous dites, vous êtes donc anémié à l'arrêt du traitement, vous sentez fatigué. Juste un point avant de donner la parole au professeur Lejeune, comment réagit votre entourage à cette fatigue, au fait que des fois vous avez du mal à vous lever, que vous traînez un petit peu les pieds? Comment on réagit autour de vous?
Les gens qui sont autour de moi, ils ne me comprenaient pas. Il n'y a que ma mère qui me comprend. Depuis que j'étais petite, il n'y a que ma mère qui me comprenait. Parce que parfois, je peux être trop fatiguée à tel point que je n'arrive pas à les manger. Et pourtant, je sais que j'ai faim.
Et c'est quelque chose qui vous fait de la peine qu'autour de vous, on vous dise finalement, t'es tout le temps fatiguée, t'es un petit peu embêtante, Hidaya, c'est quelque chose qui vous blesse un petit peu?
Oui, ça me blesse. Et parfois, je n'ose pas dire que là, je suis fatiguée.
Ouais. Et vous allez contre votre fatigue, donc vous êtes encore plus épuisée après, c'est ça?
C'est ça, oui.
Professeur Claire Lejeune, vous avez bien suivi Hidaya, ses explications. Déjà, on explique pourquoi l'anémie, ça fatigue?
Alors, c'est assez. Enfin, le rôle des globules rouges, c'est d'apporter de l'oxygène aux tissus pour que les muscles puissent bouger correctement. Donc, moins on a de globules rouges, plus il est difficile d'apporter de l'oxygène. Donc, on se fatigue à l'effort dans un premier temps. Et en fonction de la profondeur de l'anémie, on est parfois fatigué même au repos. Alors cette fatigue s'associe la plupart du temps à un essoufflement. Et d'ailleurs, il y a parfois des gens qui ont une anémie qui vont d'abord voir le pneumologue parce qu'ils sont essoufflés, alors qu'en fait, c'est dû à une anémie et pas du tout à une maladie pulmonaire. Donc, en ce qui vous concerne, si vous avez une anémie par carence en fer et que vous ne voulez pas prendre des médicaments tout le temps, il faut peut-être que vous preniez au moins des aliments qui contiennent du fer régulièrement.
Est-ce que vous avez consulté Hidaya ou au moins eu les conseils de votre médecin généraliste qui a dit voilà ce qu'il faut changer dans votre assiette? Est-ce que vous avez eu ce travail-là en nutrition?
Il m'a juste conseillé de prendre la viande saignante.
La viande saignante et les légumineuses par exemple?
Oui, je prends pas de légumineuses.
Vous mangez quoi? Du niébé? Quel type de légumineuses? Des lentilles, quoi?
Des lentilles, oui, lentilles. Et...
Souvent?
Surtout des lentilles, oui, souvent des lentilles. Souvent. Oui.
Alors, il y a cette alimentation. Et puis, quand Hidaya dit, finalement, quand ça va mieux, quand je me sens mieux, j'arrête les traitements. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire par rapport à ça?
Alors, j'ai envie de lui dire qu'elle n'est pas la seule, mais que finalement... Prendre le fer soit sous forme alimentation, soit sous forme de comprimé. Si vous avez vraiment besoin de fer pour fabriquer vos globules rouges, il faut en fait vous instaurer dans un système où vous les en prenez systématiquement et vous arrêtez de dire c'est une ordonnance de 3 mois. Il faut continuer. Et parfois, quand on arrive à recharger le stock de fer, on peut prendre un comprimé tous les 2 jours, mais régulièrement dans le temps. Et ça, je crois que c'est vraiment important.
Ne pas faire une rupture brusque. Qu'est-ce que vous en pensez, Hidaya? Est-ce que vous êtes prête, finalement, à la fois pour vous sentir mieux, puis avoir une meilleure relation avec votre entourage, à faire cet effort de prendre en continu ces cachets, ces compléments pour aller mieux?
Oui, j'aimerais bien. Mais le problème, si j'arrête, c'est parce que parfois, même les médicaments, je sens que ça me fatigue. Quand je le prends, parce qu'on me demande de le prendre à jeun, et quand je le prends, je me sens encore plus fatiguée.
Vous le prenez à jeun, mais après vous mangez?
Oui, mais on me dit 1 heure avant le manger et 2 heures après.
Vous en avez parlé de cette fatigue tout le temps à votre généraliste. Est-ce qu'il ne vous a pas conseillé éventuellement, je ne sais pas, peut-être de parler avec un psychologue pour un petit peu mettre les choses à plat?
Non, il ne m'a pas conseillé ça.
Et vous en pensez quoi?
Je pense que c'est une meilleure idée. Oui. Et souvent, j'ai l'essoufflement. J'ai même vu des pneumologues, j'ai fait des radios pour
ça. Vous êtes en quête d'une réponse sur ce plan.
injections. Ouais. Il peut y avoir, si jamais les cachets ne suffisent pas, vous disiez, hein, vous faites le geste, mais à la radio, donc notre auditrice ne le voit pas, professeur Lejeune, on peut faire une supplémentation un petit peu, on va dire, accélérée, boostée.
Oui, si vraiment, pour vous, c'est une charge très importante de prendre du fer par la bouche et que vous le faites depuis 15-20 ans, parfois, on peut aussi faire une charge par voie veineuse d'une dose très importante de fer qui vous permet de vivre pendant plusieurs mois avec un taux suffisant sans avaler de comprimés. Alors, malheureusement, ces injections ne peuvent se faire qu'à l'hôpital, mais votre médecin traitant peut peut-être vous orienter pour ce genre de traitement.
En tout cas, Hidaya, on entend vraiment cette plainte, ça vous gâche la vie, donc retournez consulter, parlez-en, parce qu'il faut vous traiter au long cours pour que vous puissiez vous sentir mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, merci beaucoup. Et comme le professeur l'a bien expliqué, il y a mon médecin traitant qui m'a parlé de ça, mais il m'a dit que c'est trop gênant parce que ça sera tous les 6 mois et il faut y aller à l'hôpital.
Écoutez, il y a un moment donné, il faut faire la part des choses, je pense. Entre s'embêter avec un cachet tous les matins et une séance tous les 6 mois, c'est à vous de faire votre choix entre les deux. C'est à vous de prendre la décision et d'en discuter avec votre médecin. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. On vous remercie infiniment, Hidaya, pour ce témoignage. On part maintenant pour le Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Et c'est donc de Ouaga que Gisèle nous a envoyé ce message sur le répondeur de Priorité Santé. On l'écoute tout de suite.
Bonjour, je suis Gisèle Belem, j'ai 28 ans, je viens de Ouagadougou. Voilà mon problème, vraiment, depuis des années, je souffre beaucoup de l'anémie. Je ne peux vraiment pas faire des travaux physiques pendant longtemps. Et même la marche, si je décide comme cela de sortir un soir, à mon retour, je suis essoufflée. Impossible même de rentrer. Je suis obligée de m'asseoir à quelque part pour me reposer d'abord avant de continuer. Et même étant endormie, tu te réveilles, tu sens déjà la fatigue en toi. J'ai eu à faire les traitements, oui, comprimés et sirop, tout. Voilà, il y a des compléments alimentaires, j'ai pris. Rien. Il y a des fruits où on dit, voilà, quand tu consommes ces fruits, ça lutte contre l'anémie. Je l'ai fait et bon, zéro résultat. Actuellement, je suis dans le traitement traditionnel pour voir ce que ça va donner. Sinon, pour les histoires de comprimés, de prise de fer, ça ne va pas du tout. Merci beaucoup.
Je disais, elle 28 ans essoufflée, fatiguée au réveil, même quand elle prend, dit-elle, une supplémentation en fer. C'est vrai que c'est une problématique chez les femmes dans la région ouest africaine en particulier. Il y a même des programmes nationaux de lutte contre l'anémie organisés auprès des structures communautaires. Professeur Claire Lejeune, est-ce que là aussi, il faut vraiment dire à Gisèle de persévérer, ne pas abandonner cette supplémentation en fer, en acide folique ?
Alors, le problème, enfin déjà, il faut que vous soyez bien sûr que votre anémie est uniquement une anémie due à une carence en fer. Mmh. Parce qu'il n'y a pas une anémie, il y a des anémies. Mmh. Et en Afrique, il y a aussi des maladies du globule rouge, dont vous connaissez la plus importante, la drépanocytose. Mais il n'y a pas que la drépanocytose, il y a aussi la thalassémie. Enfin, il y a toute une panoplie de causes d'anémie. Donc, si vous avez des anémies qui ne sont pas liées à une carence en fer, vous pourrez prendre tout le fer que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, il faut déjà que vous ayez une certitude sur le mécanisme de votre anémie. Et que vous soyez... Quand je vous entends, j'ai l'impression que vous avez quand même une anémie assez profonde. Parce que si vous êtes aussi essoufflé dès que vous faites quelque chose, ça veut dire que vos globules rouges sont quand même très bas. Alors, elle peut être aussi due à plusieurs causes qui s'ajoutent. Ça peut être effectivement des carences d'une part, mais aussi peut-être une maladie du globule rouge. Donc, il faudrait vraiment que vous puissiez faire préciser la nature de votre anémie.
Ouagadougou, se rapprocher d'un hôpital, d'un centre de soins qui a tous les spécialistes qui pourront vous renseigner, Gisèle, hein, comme vous le demandiez dans votre message, sur l'état de votre santé sanguine, on va dire tout simplement. Merci beaucoup en tout cas pour ce message. On a un auditeur de Kinshasa, Serge, qui pose cette question sur Facebook. Il y a 10 jours, il a contracté une intoxication alimentaire. Oui, ça peut arriver.
et il a du mal à retrouver sa forme, hein, grosse fatigue. Après une demi-heure d'activité physique, il bloque et comme il est coach sportif, eh bien c'est compliqué. Récupération très difficile. Il a besoin à chaque fois de s'allonger. Il boit du lait sucré pour reprendre des forces. Et il essaye d'avoir des explications pourquoi au bout de 10 jours, eh bien, il n'a toujours pas recouvré l'ensemble de ses capacités. Qu'est-ce que vous pouvez dire ?
Alors, ce que je peux lui dire, c'est que quand on a effectivement une diarrhée prolongée, ils peuvent s'installer des déséquilibres de ce qu'on appelle les ions, c'est-à-dire le sodium, le potassium essentiellement, beaucoup plus que le calcium qui n'est pas dans le tube digestif. Donc, si vous prenez beaucoup de calcium, je ne suis pas sûre que ce soit la solution. Mais la diarrhée est très importante, vous a peut-être déséquilibré. Et si vous n'avez pas assez de sodium ou pas assez de potassium, ça peut effectivement vous entraîner une fatigue par déséquilibre.
Ça veut dire quoi, professeur ? Qu'il faut prendre un petit peu plus de temps pour récupérer ou est-ce qu'il faut déjà aller vers des examens biologiques pour savoir ce qu'il en est, pour faire un point ?
Alors, il faut sûrement... Alors, avoir un apport, il faut s'assurer qu'il n'est pas déshydraté, donc qu'il n'a pas perdu trop de poids. Ensuite, vous pouvez, rien que pour commencer, manger des aliments relativement salés. Et puis, du potassium, on en trouve dans la banane, par exemple. Donc, prenez déjà ce genre de choses et voyez si vous êtes mieux. Si ça ne suffit pas, à ce moment-là, il faudra peut-être faire des examens. 10 jours... Il n'y a pas de panique. S'il y avait une grosse inflammation du tube digestif, s'il y avait une infection bactérienne et qu'il faut le temps de récupérer, donc ce n'est pas encore catastrophique, mais veillez à une alimentation, peut-être pas forcément le calcium, mais plus d'autres composés.
La banane, Serge, c'est ça le conseil pour retrouver des forces. On va poursuivre cet échange, professeur Claire Lejeune. Ne pas rester seule avec sa fatigue, l'importance du soutien aussi. On se retrouve après ce titre des Beatles, « I'm only sleeping ».
I don't mind, I think that crazy, right?
Priorité Santé sur RFI, on parle de la fatigue physique, mentale. On est toujours en compagnie du professeur Claire Lejeune, professeur de médecine interne à l'hôpital Cochin à Paris. Quand on dit fatigue sociale, professeur, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une bonne question. je ne sais pas si c'est un terme très médical, en fait. Ouais. La fatigue sociale, est-ce que vous rapprochez ça des situations aujourd'hui de burn-out, éventuellement ?
Peut-être, on disait le poids de la fatigue au travail, non pas forcément à cause des horaires, mais peut-être à cause de ce qui s'y passe.
De l'environnement, exactement. Oui, c'est ça. Et alors ça, c'est un phénomène en ce moment qui prend une importance majeur. Et c'est vrai que cette situation de fatigue au travail est devenue, a pris beaucoup d'ampleur, je trouve. Mmh. Et c'est des gens qui vraiment, à un moment donné, un jour, n'arrivent plus à se lever. Ils sont épuisés et ils ne peuvent plus. Et ça entraîne souvent des arrêts de travail prolongés et une récupération extrêmement lente. Alors, ça s'apparente peut-être à la dépression, sauf que les antidépresseurs n'ont pas toujours une grande efficacité. Et puis, il y a une espèce d'appréhension aussi de rechuter, de retourner. Enfin, c'est un sujet important.
Et qui demande une prise en charge extrêmement complexe, oui, et de longue durée.
Et puis, a priori, avec plusieurs intervenants. Mmh. Et le médecin traitant étant au centre, mais je pense qu'il faut aussi un psychologue, il faut aussi une reconnaissance, et ça, c'est pas toujours évident. Mmh. La reconnaissance de cette situation n'est pas toujours admise.
Alors, un autre témoignage à présent. On va rejoindre dans le sud de la France, à Marseille précisément, Idiatou. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Bonjour. Alors, Idiatou, cette grande fatigue, vous l'avez ressentie quand ?
Pour la première fois, je l'ai ressentie en 2015.
Oui.
Et c'était une très grande fatigue inhabituelle, c'est-à-dire qu'en fin de journée, lorsque je finissais mon travail justement et que j'avais encore quelques petites choses à faire, je n'y arrivais plus du tout, très très fatiguée. Je me disais que je n'allais pas y arriver.
Mmh. Et vous avez fait des analyses, avec quelles conclusions ?
Des analyses, oui, avec une conclusion de mononucléose. Mmh.
Alors, juste, je vous interromps, je me tourne vers notre invité, professeur Lejeune. Cette grande fatigue, on va dire que c'est l'un des symptômes clés de la mononucléose.
Alors, c'est un des symptômes clés. Alors, j'avais envie de vous demander si vous aviez aussi mal à la gorge, parce que quand même, souvent, on a des gros ganglions dans le cou, mal à la gorge. Est-ce que vous aviez ces symptômes ou pas du tout ?
Non, j'avais pas vraiment mal à la gorge, non.
D'accord, d'accord. Et alors, c'est une maladie virale, hein, c'est parmi les virus. Bon, on sait que les virus fatiguent, hein, c'est la grippe met les gens au tapis, les hépatites virales, pareil.
Récemment. Il faut faire une recherche ponctuelle, il faut rechercher le virus qui est impliqué dans la mononucléose pour la diagnostiquer ?
Alors en fait, souvent, c'est une recherche indirecte, c'est-à-dire qu'on met en évidence la présence d'anticorps qui témoignent de l'infection récente sur certains anticorps qu'on appelle les IgM. Mm. Et puis, ultérieurement, ça devient une cicatrice. Et là, on peut pas dater.
Alors, Idiatou, toujours à Marseille. Il vous a fallu combien de temps pour vous remettre des suites de cette mononucléose ?
Alors, je pense que ça m'a pris un bon mois, en fait. J'ai consulté peut-être au bout de 2 semaines. Mm. Et puis, j'ai eu encore 2 semaines... Deux semaines de fatigue.
Complètement à plat. Et puis, quelques années plus tard, une forme de rechute de fatigue. Et là, il y a aussi eu un diagnostic.
C'est ça. Rechute de fatigue énorme. Et là, après pas mal d'analyses, c'était une hépatite auto-immune. Mmh.
Mmh. Et là, j'imagine qu'à ce moment-là, vous ne saviez même pas que ça existait, cette maladie.
Ah non, pas du tout. Mon médecin traitant était assez étonné de mes analyses et m'a tout de suite envoyé à l'hôpital voir une hépatologue.
Ouais, mais quand on vous écoute, Idiatou, en tout cas, on dit quelque chose qui est pas mal, hein, c'est que vous êtes à l'écoute de vous-même, parce que vous savez repérer la fatigue bizarre de la fatigue normale, et à chaque fois, vous êtes allé consulter et vous avez eu, entre guillemets, la chance, et c'est tant mieux, d'avoir le bon diagnostic.
Alors, je ne me suis pas trop écoutée. C'était mon conjoint qui me disait d'aller consulter parce que c'était un peu bizarre.
Il ne vous reconnaissait plus, en quelque sorte.
Voilà, pour moi, il y avait plein d'autres facteurs. À chaque fois, il y avait des facteurs différents qui auraient pu expliquer de la fatigue, mais elle était un peu bizarre et il m'a poussée à consulter.
Aujourd'hui, vous êtes sous traitement par rapport à cette hépatite auto-immune dont vous avez parlé ou pas ?
Oui, je suis sous traitement toujours actuellement. Et peut-être qu'en 2015, il y avait déjà une hépatite, c'était possible.
Sous-jacente. Justement, le lien, professeur Claire Lejeune, entre cette hépatite diagnostiquée chez notre auditrice Idiatou et cette extrême fatigue, pourquoi ?
Alors, quand en cas d'hépatite, il y a une inflammation des cellules du foie et il y a dans la circulation sanguine des médiateurs, on va dire, de l'inflammation qui peuvent entraîner une fatigue relativement importante. Ce qui est bien dans ce témoignage, c'est que, alors même qu'un certain nombre de personnes diraient « mais moi, les traitements, je ne vais pas les prendre parce que ça va me fatiguer encore plus », vous vous dites « depuis que je prends mes traitements, je suis moins fatiguée ». Et ça, c'est quand même, je pense que c'est un témoignage extrêmement important.
Message aux auditeurs, oui. Que les traitements, ce n'est pas fait pour rester sur l'ordonnance, c'est fait pour être pris, parce que ça fait vraiment aller mieux dans ces cas-là.
Clairement. Mmh. Et du coup, je pense que maintenant, aujourd'hui, votre hépatite est stabilisée et que les marqueurs sont mieux et grâce au traitement. Et ça évite qu'une inflammation chronique du foie s'installe et qu'il y ait des complications beaucoup plus importantes. Donc, je vous félicite finalement d'avoir bien suivi et pris en charge vos problèmes de santé.
Et écoutez l'entourage aussi, c'est important. Grand merci Diatou pour ce témoignage. Et tout de suite, on rejoint le Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
En ligne avec nous, professeur Abdoulaye Ley, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes chef du service de médecine interne et d'endocrinologie diabétologie au Centre hospitalier national universitaire de Pikine à Dakar, interniste, endocrinologue. Précisément, ce facteur hormonal, est-ce que c'est un élément important lorsqu'il y a une plainte de fatigue, professeur Ley ?
Merci Caroline pour l'invitation. Bonjour au professeur Claire Michel.
Bonjour.
Effectivement, dans nos consultations spécialisées pour les dysthyroïdies, l'hypothyroïdie ou des patients plus compliqués, la fatigue asthénique est un symptôme très fréquent, même s'il n'est pas le premier motif de consultation. Ou de patients dans la question, on se rend compte que effectivement.
La ligne téléphonique, elle est très fatiguée. Alors, je ne sais pas ce que m'indique l'équipe technique. Est-ce qu'on essaye de rappeler le professeur Ley ? Oui, c'est ce qu'on va faire. On vous rappelle, professeur Ley, hein. Raccrochez, restez à disposition et on vous retrouve dans quelques instants. Je me tourne vers vous, professeur Lejeune, le temps qu'on retrouve le Sénégal et qu'on retrouve Dakar. Ce problème hormonal, c'est aussi vraiment une piste importante.
Alors, c'est une piste très importante et elle est recherchée de façon systématique quand il n'y a pas de fièvre ou de signes infectieux associés et que, alors souvent, les dysfonctionnements hormonaux s'accompagnent d'autres symptômes cliniques qui nous mettent sur la piste, mais pas tout le temps. Et le professeur Abdoulaye parlait de la thyroïde. Et la thyroïde est vraiment une source de dysfonctionnement, notamment l'hypothyroïdie, mais l'hyperthyroïdie peut aussi fatiguer. Donc la thyroïde et puis la surrénale, qui est une glande qui nous permet de faire face aux agressions, au stress, etc. Et quand elle ne fonctionne pas, la fatigue est incommensurable. Et puis, la fatigue de la ménopause chez certaines femmes, quand on n'a plus d'œstrogène, l'andropause, entre guillemets, chez les hommes.
Est-ce que vous diriez que ce facteur hormonal, il est plus souvent au rendez-vous chez les femmes que chez les hommes quand même ? Parce qu'on parle souvent des maladies de la thyroïde qui sont plus représentées chez les femmes.
Féminine, oui,
cette période de la vie, la ménopause, dont on parle plus en tout cas, médiatisée chez les femmes.
C'est ça. Alors effectivement, probablement, on voit beaucoup de femmes en endocrinologie, mais on voit aussi des hommes. On n'a pas parlé du diabète, mais le diabète est aussi une cause de fatigue, surtout quand il n'est pas diagnostiqué. Et le diabète, c'est vraiment, ça touche les deux sexes. Hein.
On vous a retrouvé, professeur Ley, et c'est tant mieux. Quand vous posez des diagnostics, les principales affections liées à cette plainte de fatigue, c'est quoi dans un service comme le vôtre ?
Alors, on a premièrement les dysthyroïdies, comme on a dit tantôt, l'hypothyroïdie, le diabète surtout compliqué de troubles cardiaques, ou s'il y a une infection pulmonaire. Mais également, il y a les infections, on est en contexte de Covid encore, ou en tout cas, on a des infections pulmonaires qui sont là, syndrome grippal, ça, c'est source de fatigue. Et on a aussi quand même le syndrome fibromyalgique qui va souvent avec les dysthyroïdies. une sorte d'asthénie, de fatigue générale. On a les effleurations qui sont relativement normales et associées à un patient qui a un goitre ou une hypothyroïdie sous traitement.
Ces patients qui viennent avec cette plainte de fatigue en baisse de régime, est-ce qu'avant de venir vous voir, puisque vous exercez, on l'a compris, à l'hôpital, professeur Ley, ils ont souvent recours à l'automédication ou tout à l'heure, comme à notre auditrice, au tradit praticien?
Oui, c'est quasi systématique, que ce soit des compléments alimentaires ou tout autre traitement indiqué pour une maladie non encore diagnostiquée.
On vient vous voir finalement en dernier recours quand rien n'a marché avant, c'est ça?
Malheureusement, le plus souvent.
Donc, retard de prise en charge une nouvelle fois. Est-ce que dans le contexte tropical, professeur Abdoulaye Ley, il y a aussi certaines affections spécifiques qui peuvent être accompagnées avec d'une très 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 grosse fatigue?
Alors, on a le lot quotidien des patients qui ont de l'anémie, ou une dénutrition, ou des écarts alimentaires, ou une surcharge de travail, un certain nombre de fatigues chroniques où parfois il n'y a pas de cause particulière. Effectivement, il n'y a pas de cause parce que c'est à relativiser, parce que parfois toutes les effleurations qu'il faudrait faire pour avoir une étiologie précise, c'est relativement coûteux et c'est inaccessible aux patients.
On comprend bien, parce que passer au labo, évidemment, quand ce n'est pas remboursé, ça coûte très, très cher. Et puis, il faut parfois avoir des examens qui ne sont pas toujours accessibles. On a un témoignage. C'est Marie qui souhaitait nous faire part de son expérience avec une question. Elle nous appelle du Bénin et on vous soumet sa question, professeur Abdoulaye Ley, tout de suite. Voici son message.
Bonjour, je me prénomme Marie, j'ai 26 ans, je vis à Paris-Court, au Bénin. Il y a de cela quelques années, précisément en 2021, que je sens une grande fatigue qui a débuté par des soulèvements, des difficultés respiratoires et m'a emmené en hospitalisation plusieurs fois. De cette hospitalisation, on m'a référé chez un cardiologue et après plusieurs consultations cardiologiques, un médecin m'a en conclusion trouvé une pression artérielle pulmonaire plus ou moins élevée à 40. Et je suis porteuse de l'hémoglobine AS avec un S dominant. J'aimerais savoir si la conclusion de ce cardiologue, à savoir la pression pulmonaire plus ou moins élevée, est à l'origine de ma fatigue. Parce que de plus en plus, je me sens fatiguée et quand je dors, j'ai l'impression, quand je me réveille, d'avoir de sortie de loin. Je me sens toujours fatiguée et ça m'empiète. Même dans mes activités quotidiennes, j'ai du mal, je me sens fatiguée. Merci.
Alors, on s'adresse à l'interniste, au spécialiste, professeur Ley. Essoufflement, fatigue excessive, drépanocytaire AS avec S dominant, tout ça les spécialistes connaissent très bien. Et puis, donc, cette hypertension artérielle pulmonaire. Un tableau assez complet, professeur Abdoulaye Ley. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre auditrice, Marie, on l'a entendu, dont la voix a été modifiée parce qu'elle souhaitait garder l'anonymat?
Alors, sa première question, c'était de se demander est-ce que cette hypertension artérielle pulmonaire pouvait être à l'origine de sa fatigue, de son essoufflement?
Tout à fait.
Oui, très clairement, une hypertension artérielle pulmonaire qui semble assez sévère ici, effectivement peut expliquer cet essoufflement et cette fatigue, mais aussi la cause de l'hypertension artérielle pulmonaire est aussi source de fatigue. Je m'explique. On peut dire que l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est différent de l'hypertension artérielle classique que l'on connaît en périphérie. Ici, il s'agit d'une difficulté du sang à circuler normalement dans les poumons, puisque le cœur droit doit projeter le sang pour qu'il passe dans le poumon droit et récupérer de l'oxygène. Donc, quand il y a, par exemple, une infection pulmonaire, une affection pulmonaire qui empêche le sang de circuler tranquillement dans les poumons, eh bien, la pression augmente dans l'artère pulmonaire qui est censée véhiculer le sang du ventricule droit vers le poumon. Donc, dans toutes ces circonstances-là, l'essoufflement et la fatigue est très important du fait que l'organisme va manquer d'oxygène. Évidemment, les causes sont multiples. Ton cardiologue lui a diagnostiqué l'hypertension artérielle pulmonaire, mais il y a derrière toute une batterie d'exploration pour voir si c'est le poumon qui est malade ou si c'est le cœur gauche dans lequel le sang ne s'écoule pas ou est-ce qu'il y a une affection inflammatoire chronique, une connectivite Le tout, véritablement, il y a toute une batterie d'examens, ou encore toute une liste de causes possibles à l'hypertension artérielle pulmonaire.
Donc, il y a encore une exploration à faire. Et puis, vous disiez aussi, professeur Lejeune, cette piste de la drépanocytose.
Oui, il faut savoir aussi quel est son chiffre d'hémoglobine, de la même façon, qui peut venir se rajouter. Peut-être qu'elle fait des petits emboles. Enfin, c'est difficile de faire des diagnostics
bien sûr,
comme ça,
sûr.
Mais en tout cas, il ne faut pas qu'elle soit étonnée d'être fatiguée.
C'est tout à fait logique avec l'état de santé, donc faire des explorations supplémentaires. Professeur Abdoulaye Lay, dernière question. Vous disiez tout à l'heure, on passe souvent par la case automédication ou la case tradie avant de venir vous voir. Il faut vraiment pourtant consulter avant que cette fatigue ne devienne vraiment invalidante. La fatigue est encore trop souvent négligée.
Absolument, absolument. Ne pas consulter tôt, c'est un retard diagnostique important. Et malheureusement, quand maintenant les patients viennent consulter, il y a des signes patents d'une autre affection générale qui fait que la fatigue même est au second plan, puisqu'il y a la maladie rénale ou la maladie hépatique, la maladie cardiaque, le diabète mal pris en charge, qui est là vraiment au devant et qui rend évident l'étiologie de cette fatigue-là. Donc vraiment, quand ça persiste au-delà de quelques mois, il faut aller consulter avant que d'autres symptômes beaucoup plus graves ne surviennent.
Et c'est vrai qu'on en a eu tout à l'heure l'illustration criante avec notre auditrice Idiatou. Elle était fatiguée, finalement c'était le foie. Et aujourd'hui, heureusement, elle est sous traitement. Un grand merci, professeur Abdoulaye Lay. Merci d'avoir été en ligne avec nous de Dakar. On vous retrouve, professeur Claire Lejeune, pour la dernière partie de notre échange. On a eu beaucoup de messages, comme celui de Boniface de Maroua au Cameroun. Lui, il est partagé, en fait. Il a envie de bouger, il a envie d'être actif. Je lis son message. Chez moi, la fatigue persiste même quand je me repose. La difficulté, c'est que je ne tiens pas en place. Je veux toujours être en activité. Il pose cette question. Comment faire pour concilier le repos, le travail, ne pas m'épuiser? En fait, la question que pose Boniface, c'est bel et bien, professeur Claire Lejeune, celle de savoir s'écouter et de respecter son rythme.
Alors oui, sûrement. Et là aussi, on est toujours dans le... À un moment donné, il faut aussi qu'il se demande pourquoi il est brutalement aussi fatigué, alors qu'il ne l'était pas jusqu'avant et que son activité, son hyperactivité est de tout temps. Donc pourquoi brusquement les choses ne vont pas bien? Soit s'il retrouve tous les déséquilibres dont on a parlé dans sa vie, et pourquoi pas? Mais peut-être qu'une consultation médicale serait utile.
Pour faire un petit point.
Oui.
La fatigue, dans l'actualité, on a également entendu parler des grandes fatigues associées au Covid long. Là aussi, c'était un signal d'alerte. Peut-être poser des questions quand on a eu une infection au coronavirus, qui peut d'ailleurs être passée inaperçue. Il n'y a pas forcément des Covid longs après des formes fortement sévère. Symptomatiques ou sévères. Professeur Claire Lejeune, il faut y penser aussi depuis que le Covid-19 comme année 2019 existe. Ces trois dernières années, il faut y penser.
Alors, il faut y penser. Effectivement, on a beaucoup mis en avant le Covid long. Ce que je voulais dire aussi, c'est quand même, on a parlé des virus tout à l'heure, et on avait déjà des syndromes de fatigue chronique post-virale connus, notamment après le virus de la mononucléose, l'Epstein-Barr virus.
Mais des fois, on met du temps à s'en débarrasser, ça veut dire.
Alors, on met du temps. Alors, la majorité des gens récupèrent au bout d'un mois, un mois et demi, et dans certains cas, de façon inexpliquée, et c'est pas faute de recherche, on ne comprend pas pourquoi les gens ne se remettent pas. Le virus n'est plus là. Les tests sont tous normaux, biologiques, les examens. Et pour autant, ils sont épuisés. Et c'est un état qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mis en exergue ce syndrome de fatigue chronique qui correspond à une fatigue qui dure depuis au moins 6 mois.
Il faut aussi accepter la fatigue quand elle est liée à une convalescence. Je pense par exemple à une infection comme une méningite, professeur Claire Lejeune. Là aussi, on n'est pas sur pied en train de courir dès le lendemain.
C'est clair, c'est clair. C'est une infection bactérienne, donc avec puis une méningite en plus, donc c'est quand même quelque chose de très lourd. Et il faut effectivement respecter la période de récupération de l'organisme qui est indispensable et qui se traduit dans les faits par la disparition de l'inflammation, la disparition des symptômes cliniques. Et petit à petit, la vie reprend son cours, comme après un accouchement, comme après des événements traumatisants, on va dire.
Avec des événements qui marquent. Il nous reste 30 secondes, c'est beaucoup trop court pour en parler.
Oui.
Malgré tout, on n'a pas beaucoup parlé de la dépression. Là, il faut vraiment y penser aussi.
Alors, il faut tout à fait y penser parce que la fatigue au cours de la dépression, c'est majeur. C'est souvent le seul symptôme, mais ça reste pour nous un diagnostic d'élimination. Et pour les patients, beaucoup, ils ne veulent pas qu'on leur dise, sauf si on a vraiment des symptômes criants associés. Mais il faut y penser et c'est une fatigue qui commence dès le matin au réveil.
Merci beaucoup, professeur Claire Lejeune, d'avoir répondu à nos questions. Et c'est le moment de parler sport et activité physique dans notre émission. On vous retrouve, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, docteur Sen, médecin du sport, auteur du livre « Le sport, je me lance » aux éditions InPress. Aujourd'hui, on va parler de la pratique de l'activité physique pour les personnes qui souffrent, qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Avec une première question pour commencer. Est-ce que l'on sait, Jean-Marc, si l'activité physique permet d'une certaine manière de prévenir la maladie d'Alzheimer ?
Alors, on rappelle, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui implique en fait les cellules de la mémoire. Ça se situe dans une zone très profonde du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et en fait, c'est une dégénérescence de ces cellules qui va gagner en fait l'ensemble des cerveaux et toucher les souvenirs récents dans un premier temps, plus que les souvenirs anciens. Et ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, l'activité physique modérée ou élevée réduit de 30% le risque de développer une maladie neurocognitive dont la maladie d'Alzheimer fait partie. Donc, toutes ces études qui sont nombreuses montrent qu'effectivement, une activité physique régulière permet de prévenir cette maladie d'Alzheimer.
Alors voilà pour l'idée générale. Maintenant, est-ce qu'on est allé plus loin dans le sens où l'on sait quels types d'activités sont peut-être plus pertinentes, plus utiles que les autres ?
Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il faut pratiquer au moins 3 fois par semaine une activité physique. Et idéalement, ce serait 60 minutes, donc 1 heure d'activité physique chaque jour. Alors là, beaucoup d'activités physiques vont être intéressantes, comme la marche, par exemple, la randonnée, la natation, le tai chi, le cyclisme, le jardinage, la danse, pourquoi pas. Tout cela, ce sont des activités qui sont tout à fait intéressantes et elles sont intéressantes parce qu'elles stimulent l'activité du cerveau en augmentant en quelque sorte le niveau de matière grise. Alors cette stimulation cérébrale élevée liée à l'activité physique eh bien permet de réduire le risque de maladie d'Alzheimer. De même, on sait aussi que si on augmente les liens sociaux ou si on a une activité intellectuelle, eh bien ça aussi c'est une façon de réduire la maladie d'Alzheimer.
Alors on a parlé prévention, maintenant une fois que le mal est là, que l'on souffre de cette maladie d'Alzheimer, est-ce que le sport reste, oui ou non, utile ?
Eh oui, le sport reste absolument utile, Caroline. L'effet bénéfique du sport se confirme, même en présence de la maladie. Et on sait que c'est les personnes qui souffrent de cette maladie d'Alzheimer évoluent moins vite que les patients qui sont sédentaires. Donc, il faut absolument continuer à faire de l'activité physique ou du sport quand on souffre de cette maladie. Les sports, alors évidemment, on doit tenir compte du type de sport pas trop fatigant et adapté à ses capacités physiques. Donc, la gymnastique, le yoga, la danse dont on parlait tout à l'heure sont tout à fait adaptés. Et puis, ça permet d'entretenir les relations sociales, les contacts qui réduisent les effets de cette maladie. Il ne faut pas hésiter aussi à faire toutes les sorties possibles. Quelquefois, il y a des promenades, des sorties, par exemple, au musée, pourquoi pas, aller faire ses courses à pied, évidemment, monter des escaliers. Tout cela, ce sont des moyens, en fait, d'augmenter notre niveau d'activité physique chaque jour et d'éviter l'évolution de la maladie. Tout ça, c'est tout à fait démontré. Donc, voilà les conseils qu'on peut donner, bien sûr, à nos auditeurs, en espérant que grâce à tout cela, ils garderont une mémoire d'éléphant.
Et à très bientôt, docteur Sen, des conseils, motivation, rythme, des fiches pratiques. On retrouve tout ça dans votre livre « Le sport, je me lance » aux éditions InPress. À bientôt. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Et merci à vous d'être tous les jours au rendez-vous de notre émission Santé sur RFI.
C'était Priorité Santé avec le groupe Sounou où le client est au centre de tout. Profitez de la Sounou attitude. Bonne année!